Bienvenue sur Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 7 février. Élysée 2022, les candidats face au 7-9. Vous le savez, c'est notre rendez-vous politique jusqu'à la présidentielle. Ce matin, Éric Zemmour sera notre invité de 8h20 à 9h30. Posez-lui vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. Et vous le savez, vous aurez tout à l'heure largement la parole. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, intense balai diplomatique pour faire retomber la pression de la crise ukrainienne. Emmanuel Macron rencontre aujourd'hui Vladimir Poutine, ce soir à Moscou. Les autres titres.
Comment Orpea en pleine tourmente a-t-elle pu avoir de si bonnes notes chez les agences de notation? Explication dans ce journal. Dans ce journal aussi, les attentes des enseignants sur l'évolution du protocole sanitaire. Une médaille d'argent au JO, Johan Claré en descente. Et les Lions de la Teranga, champion d'Afrique de football, nous serons dans la liesse de Dakar.
Invité d'Inter à 7h50 avec vous, Léa.
Elle aime Bruxelles et nous, on l'aime. Avant les victoires de la musique vendredi où elle sera nommée, elle passe nous voir ce matin. La chanteuse belge, chanteuse phénomène, Angèle, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa.
France Inter. Trouver l'étroit chemin du compromis dans la crise ukrainienne. Emmanuel Macron à Moscou aujourd'hui pour un tête-à-tête avec Vladimir Poutine. Dans le contexte qu'on connaît, la Russie masse des troupes à la frontière ukrainienne, mais n'a pas l'intention de l'envahir. Les États-Unis acheminent des militaires et des armes en Europe de l'Est, mais ne veulent pas déclencher de guerre. Le président français retrouve donc son homologue russe pour la première fois depuis leur rencontre. C'était au fort de Brégançon à l'été 2019. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Anaïs.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Que peut obtenir le chef de l'État français chez un Vladimir Poutine maître du jeu ?
Eh bien, si la relation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine a été plutôt distendue ces deux dernières années, elle semble s'être renouée ces derniers jours avec trois conversations téléphoniques en une semaine, au cours desquelles, selon l'Élysée, le Russe aurait dit aux Français qu'il voulait le voir pour aller au fond des choses avec lui. Et le fond des choses pour le Kremlin actuellement, c'est remettre à plat l'architecture de la sécurité et des alliances militaires en Europe. Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à en discuter, mais la France ne peut évidemment rien seule dans ce domaine, alors que l'OTAN dit qu'il est hors de question de remettre en cause la politique de la porte ouverte. Et l'objectif du président français sera donc d'abord aujourd'hui d'obtenir un signe de bonne volonté, quelque chose qui puisse permettre de parler de désescalade de la tension, alors que 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Pour Vladimir Poutine, la configuration actuelle est déjà en soi un succès diplomatique puisqu'il a réussi à forcer les Occidentaux à prendre en compte ses revendications en matière de sécurité. La question est maintenant de savoir si ce sera suffisant pour l'amener à faire une concession aujourd'hui.
Sylvain Tronchet, merci en direct de Moscou. Avant de s'envoler vers la Russie, Emmanuel Macron a encore téléphoné pendant 40 minutes hier à Joe Biden. Les Américains, eux, n'hésitent pas à prêcher le pire pour peut-être laisser la place à la désescalade. Sébastien Paour, à Washington, le renseignement américain dessine un scénario catastrophe avec guerre éclair et des milliers de morts.
Des colonnes de soldats en treillis qui descendent des avions militaires, sacs au dos et armes en bandoulière, c'était tout le week-end dans le sud-est de la Pologne. Les premières troupes aéroportées de la 82e Airborne arrivent en Europe. L'Amérique ne vient pas faire la guerre, mais préparer la paix, assure le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan. C'était hier sur Fox News. Le président dit clairement depuis des mois maintenant que les États-Unis n'envoient pas de troupes pour déclencher une guerre ou faire la guerre à la Russie en Ukraine. Nous avons envoyer des troupes en Europe pour défendre le territoire de l'OTAN. Jake Sullivan dit aussi qu'une escalade militaire peut intervenir n'importe quand. La Russie dispose déjà de 70% de son dispositif pour une invasion à grande échelle, d'après le renseignement américain. Bientôt 150 000 hommes qui permettraient d'encercler Kiev et de renverser Volodymyr Zelensky en 48 heures, avec un bilan humain là aussi estimé par le renseignement américain. Jusqu'à 50 000 morts chez les civils, 5 à 25 000 soldats ukrainiens et entre 3 et 10 000 tués dans les rangs russes, sans compter 1 à 5 millions de réfugiés. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Et la suite du ballet diplomatique, c'est le chancelier allemand aujourd'hui à Washington, puis Moscou et Kiev, où sera d'ailleurs Emmanuel Macron dès demain.
Il est 7h05, après le choc Orpea, Anaïs, Korian va-t-il se retrouver à son tour dans la tempête?
Le leader français des maisons de retraite à son tour, en effet mis en cause par des familles, des dizaines de témoignages collectés par la même avocate qui prépare une action collective contre Orpea et pourrait faire de même avec Korian. Orpea avait pourtant été bien évalué par les agences spécialisées dans la responsabilité sociale des entreprises. Comment l'expliquer, Claire Chaudière ?
des notes plutôt rassurantes sur l'échelle des risques, 2 sur 5, et relativement hautes sur l'échelle de la responsabilité sociale et environnementale. La face sombre d'Orpea a échappé au filet des systèmes de notation, y compris sur des critères extra-financiers, analyse Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, réseau d'expertise sur la finance durable.
C'est surprenant de constater que ces notes n'étaient pas si mauvaises et surtout qu'elles avaient même progressé récemment. C'est la première grande controverse d'une entreprise sélectionnée dans des fonds, dans des placements sur des critères sociaux. Il y a 3 grands systèmes, on va dire, de notation et elle était vraiment dans le top de son secteur.
Mais il faut bien comprendre, poursuit-elle, que ces notes résultent d'un exercice en grande partie déclaratif, basé notamment sur des réponses à des questionnaires.
Avec des données de l'entreprise qui évidemment se présentent sous son meilleur profil. À aucun moment, il s'agit d'un système où on vérifie bien, par exemple, les conditions de vie dans les EHPAD. Et donc c'est ça qui est en train de bouger. Ça va effectivement probablement marquer le début d'un autre mode d'évaluation.
Et pourquoi pas avec un critère de taux d'encadrement beaucoup plus central dans le système d'évaluation. Les agences de notation Sustainalytics et Moody's que nous avons contactées assurent de leur côté qu'Orpea était malgré tout loin d'avoir les meilleures notes, même si le groupe n'avait pas franchi les seuils d'alerte.
Les agences de notation ont-elles été défaillantes ? C'est aussi un article à lire sur franceinter.fr. Le retour des maths dans le tronc commun en première au lycée n'est plus tabou. Le ministre serait prêt à revenir sur sa réforme du bac. Il faut probablement faire évoluer l'enseignement scientifique pour qu'il y ait plus de mathématiques, dit Jean-Michel Blanquer sur CNews, précision à 8h. Quant aux écoles, 2 ans après le début de la pandémie, les 2/3 ne sont toujours pas équipés de capteurs de CO2, selon nos confrères de France Info. C'est un peu mieux dans les lycées, les 3/4 sont équipés. Demain, une réunion aura lieu au ministère de l'Éducation nationale pour faire évoluer le protocole, mais cette fois en concertation avec les syndicats enseignants. Avec quelles attentes, Sonia Princé ?
Retirer le masque en extérieur, dans la cour de récré, les syndicats sont plutôt d'accord, mais à l'intérieur des classes, c'est encore prématuré. C'est surtout la politique de test qu'il faut revoir, selon eux. Les autotests à J+2 et J+4 ont-ils vraiment du sens, s'interroge le syndicat des enseignants de l'UNSA. Et pour Jean-Rémy Girard du SNALC, il faut mettre fin à l'attestation sur l'honneur fournie par les parents.
Le système où il faut faire 3 autotests en 5 jours n'est globalement, pour nous, plus respecté aujourd'hui. Donc en fait, les parents signent des documents qui sont vide de sens. Ça arrive très souvent que l'élève, finalement, il soit positif Covid à J+5 ou J+6 et tout ce processus n'a pas servi à grand-chose.
Certains syndicats demandent aussi un délai d'application du nouveau protocole après les vacances, comme le dit Laetitia Arézu, secrétaire nationale du SGEN CFDT.
On souhaite qu'il y ait un délai de 3-4 jours, voire une semaine, selon les mesures qui seront à mettre en œuvre, afin de pouvoir s'organiser au niveau des écoles, des établissements, afin de pouvoir communiquer vers les familles. Il faut vraiment laisser du temps aux équipes.
Ne pas aller trop vite, dit le syndicat SNES pour les collèges et lycées. Prudence dans les décisions, met en garde le SNUIPP, principal syndicat du primaire. Tous sont sur la même ligne, ne pas alléger le protocole trop tôt pour éviter les retours en arrière qui seraient bien plus difficiles à vivre.
Côté épidémie, les contaminations continuent à baisser. En revanche, le nombre de patients hospitalisés en France avec un diagnostic Covid est à la hausse.
Oui, il est 7h08, peut-être le retour des activités nucléaires de General Electric à Belfort dans le giron français.
EDF, en conseil d'administration ce soir, pourrait décider de débourser 273 millions de dollars pour racheter ces turbines. Vendues il y a 7 ans, c'était alors Alstom, par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, à General Electric. Emmanuel Macron, devenu président et qui souhaite de nouvelles centrales pour la France, sera à Belfort jeudi, si l'agenda international le permet, car le chef de l'État n'est toujours pas sur le terrain de la campagne. À gauche, ce week-end, Anne Hidalgo et Yannick Jadot lui ont demandé de se déclarer rapidement. À l'extrême droite, les lignes de partage entre Marine Le Pen et Éric Zemmour sont toujours mouvantes. L'ancien polémiste continue à compter les ralliements, Élodie Forêt.
Il y a quelques jours encore, Cyril Hermat Dunker était délégué départemental du RN dans le Loiret. Désormais rallié à Reconquête, il raconte des mois de désillusion sur le fonctionnement du parti lepéniste.
Il m'a été dit, mais Cyril, on n'est pas dans une démocratie au RN. Hein. On a une tête pensante, on a des dirigeants et nous, on est là pour exécuter les ordres qui viennent d'en haut. Il y a une sorte de répression en interne qui est faite, et de surveillance qui est insupportable.
Un système vertical, parfois brutal, que relatent aussi d'autres ex-RN. Et qu'importe si les sondages placent toujours Marine Le Pen en tête, rejoindre Reconquête, pour eux, c'est aussi songer à l'avenir post-présidentiel.
Une adhésion, c'est des moyens financiers. Quand vous avez un parti qui aujourd'hui est aux alentours de 90 000, si ce n'est plus, là vous avez une machine qui est, en termes de militants et d'adhérents, trois fois plus puissante mathématiquement que le Rassemblement national.
Un autre rallié à Éric Zemmour renchérit après l'élection, le Rassemblement national désargenté et sans leader n'aura plus rien à proposer, pointant malgré tout un écueil, le risque d'apparaître à force de ralliement comme une scission du RN. Un membre de l'équipe de campagne soupire. Maintenant, il nous faut des LR.
Et je vous rappelle donc Éric Zemmour, l'invité ce matin d'Inter, il sera face au 7-9 tout à l'heure. Le compteur s'était grippé, mais voici donc la deuxième médaille française au JO. Il y a moins d'une demi-heure, l'argent de Johan Claret en descente, Guillaume Batin.
Oui, Johan Claret, 41 ans, vice-champion olympique de descente. Il peut ajouter ça à son palmarès. Trois semaines après, une seconde place aussi dans la mythique Strife à Kitzbühel en Autriche. Ce que ses amis de l'équipe de France appellent le papy a encore fait sensation. Si on m'avait dit ça ce matin au réveil, je ne l'aurais jamais cru, vient-il de dire. Il va monter sur le podium tout à l'heure, entouré par deux monstres du ski alpin, deux monstres de la descente. L'or pour le Suisse Beat Feuth, c'est l'Autrichien Matthias Mayer. Quand on regarde les lignes de son palmarès olympique, eh bien, c'était moins brillant à Vancouver en 2010, 27e place. Abandon à Sochi en 2014, 18e à Pyeongchang il y a 4 ans. Johan Claret termine sa carrière en apothéose.
Guillaume Batin, envoyé spécial au JO de Pékin avec Romain Lukiens. Là, c'est un peuple comme un seul homme qui a retenu son souffle jusqu'au bout du suspense. Le Sénégal emporte pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. La troisième finale aura été la bonne. Vainqueur au tir au but de l'Égypte. Le plus beau jour de leur vie pour des milliers de supporters. Reportage à Dakar entre feu de joie et klaxon de voiture, Théa Olivier.
Drapeau à la main, des supporters bloquent une des plus grosses artères de Dakar à quelques pas de l'université. Massaning est assis sur le toit de sa voiture, vêtu d'un maillot de l'équipe nationale sénégalaise.
Vraiment, on était en pression, mais Sadio Mané a libéré tout un peuple avec son dernier penalty. On est les meilleurs en Afrique. C'est la première fois qu'on a la Coupe d'Afrique.
Oumou, 18 ans, revient à pied de la fan zone où elle a vu le match avec un groupe de copines et elle félicite l'équipe des Lions de la Teranga.
On a aimé le bravoure, la motivation. Au début, c'était stressant, on avait peur, mais à la fin, on les a battus. On est les meilleurs!
Un groupe d'étudiants s'est mis à courir et à chanter devant l'université. Parmi eux, Abdoulaye Cissé, 22 ans, qui se rappelle avec amertume de la finale perdue lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
En 2019, on a trop souffert, on a pleuré. Ça fait des années qu'on court derrière et aujourd'hui, nous sommes trop contents, très fiers d'être sénégalais, d'avoir remporté ce trophée.
Le président Macky Sall a décrété ce lundi comme étant un jour chômé et payé à titre exceptionnel pour célébrer la victoire de l'équipe nationale qui sera accueillie à l'aéroport aujourd'hui à 13h. À Dakar, Théa Olivier, France Inter.
Un dernier mot de football, 5-1. Le PSG n'a fait qu'une bouchée de lille hier soir, 23e journée de Ligue 1.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France, épisode 6. Aujourd'hui au club du 3e âge, heureux, a bondi en Seine-Saint-Denis.